Bonjour à tout le monde. C'est toujours un peu une expédition et une excitation de traverser la frontière de l'Alsace, de la Lorraine, pour venir vous rendre visite. Le dimanche matin, ça va assez bien, la circulation est fluide, c'est souvent même calme. On ne croise pas grand-chose sur la route, juste quelques radars qui sont fidèles à leur poste. Alors, ce qui était un peu marrant ce matin, et je crois que ça, je ne l'avais pas prévu dans mon texte, ça fait longtemps que j'étais plus chez vous, hein, donc je ne savais plus trop la route. J'ai programmé mon GPS en partant, et manque de peau, à un moment donné, il était perdu. Alors, ma voiture n'est pas si ancienne, hein, on a pas mal de voitures anciennes chez nous. La nôtre, elle a 5-6 ans, et déjà, le GPS n'est plus d'actualité. Heureusement, j'avais mon téléphone en poche, donc j'ai sorti mon téléphone, et je me suis laissé guider par lui, parce que lui, il est plus récent, il m'a indiqué la bonne voie. Manque de peau, il n'y avait plus de réseau à un moment donné. Vous rendez compte? Le culte commence tout de même à 10h30, il hein, faut être là à l'heure, quoi. Heureusement que la troisième aide, c'était les panneaux de signalisation qu'il y avait sur la route, qui à un moment donné indiquaient d'arnais, puisqu'il faut tout dire qu'il y avait une déviation, hein. On ne m'avait pas prévenu, quoi, mais... Tout ça pour vous dire, en fait, que ce que je vous dis ce matin, peut-être doit aussi passer par quelques filtres qui sont vous, je crois, pour voir si ce que je dis est juste, et pour qu'on soit bien orienté. Hein, souvent, on ne sait pas toujours quel est le chemin, on a besoin d'aide autour de nous, et je crois que les frères et sœurs de l'Église, entre autres, peuvent être de ces aides-là, mais on a besoin d'éléments pour nous guider dans la vie. Alors, pour ne pas vous cacher, c'était que j'étais aussi en pensée avec vous il y a 3 semaines. C'était pas long, hein, il y a 3 semaines. Hein. Je crois que c'était un culte particulier dans votre église, avec une étape importante. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté le message de Robert Kaufmann. C'est la seule chose hein, que j'ai pu suivre sur votre site, mais ça, je l'ai suivi. Et c'était un peu un moyen pour moi de participer avec vous à cette journée que vous avez vécue, qui était une belle journée. J'ai eu des échos riches. Donc c'était un moment joyeux. Et je crois qu'il y avait de la joie au ciel aussi, ce jour-là. Un peu comme quand il y a des baptêmes. Hein, quand il y a des baptêmes, il y a de la joie au ciel. Là aussi, avec ce que vous avez vécu, dimanche, il y a 3 semaines, il y avait de la joie. Étape marquante, quand des personnes veulent s'engager dans la vie de l'Église et veulent servir, être responsables, et en même temps quand l'Église reconnaît des ministères de personnes. Alors ce matin, j'aimerais aborder avec vous le thème de la foi. Joie et foi, ça rime un petit peu. Hein. J'aime toujours dire que la joie, pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau dans notre vie de chrétien. On peut vivre une vie de chrétien sans avoir la joie. C'est pas obligé. Mais quand on l'a et qu'elle est là, je me dis, il y a quelque chose de particulier. Et introduire ce culte d'aujourd'hui par la joie, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Alors moi, j'aimerais parler avec vous de la foi. C'est pas une prédication que je reprends de quelque part, c'est une qui est préparée spécialement pour l'occasion, que j'espère je pourrai reprendre à d'autres endroits si vous me le permettez. Et quand on prépare quelque chose, je pense que ceux qui le font le savent, le plus grand bénéficiaire, c'est celui qui prépare. Alors vous avez intérêt à préparer des prédications, ça vaut le coup, hein, parce que vous en tirez un bénéfice. On fait des recherches, on se pose des questions, on demande à Dieu d'être éclairé, on se parle au Seigneur, et on dit mais dans quel sens il faut aller? Et les sujets qu'on aborde souvent ne nous laissent pas tranquilles, parce qu'on voit que dans notre vie de tous les jours, le Seigneur veut aussi nous parler et veut que nos thèmes qu'on aborde soient imprégnés de notre vie de tous les jours. Un peu comme si le thème qu'on aborde doit être mis à l'épreuve par notre vie de tous les jours. Alors c'est vrai que la foi, on sait ce que c'est la foi. Hein. La foi, c'est croire en Dieu, c'est être sûr que Dieu existe. C'est croire que sa parole est vraie. C'est croire que ma vie est orientée d'après les principes bibliques. La foi, elle est nécessaire pour croire en lui et pour marcher avec le Seigneur. Personne ne peut dire que Dieu existe s'il n'a pas la foi. Donc on peut dire que la foi, dans un premier temps, on pourrait dire que c'est le socle, que c'est le fondement de ma vie chrétienne, mais je crois que c'est le fondement de chacune de nos vies chrétiennes. Mais rapidement, avec la foi, il y a les doutes. Les doutes, ils viennent et ils veulent dérober un peu notre confiance en Dieu. Un peu comme, vous savez, au début de la Bible, Adam et Ève dans ce jardin où il y a un serpent qui est venu et qui a commencé... Qu'est-ce qu'il a fait, le serpent ?
Le doute.
Le doute, hein ? Il a posé des questions. C'est ça, le doute, hein ? C'est poser des questions sur des choses où Dieu dit « c'est comme ça » et pas autrement. Et rapidement, la foi est mise à l'épreuve. Elle peut même être secouée par des circonstances difficiles de la vie. La foi peut être secouée des fois même par des discussions qu'on peut avoir avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. Des fois même la foi est secouée quand on discute avec des gens qui croient en Dieu, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça arrive aussi, ça, hein ? En tout cas, la foi peut être secouée, mais en même temps, elle peut être fortifiée et elle peut être enracinée au travers de ces différents événements que j'ai cités. On sait bien que c'est les ouragans ou les tempêtes, au travers de ces tempêtes, qu'on voit si une maison est solide ou si un arbre est résistant. Alors, je crois qu'on peut avoir des doutes à des moments différents de notre vie et sur des questions différentes. Toute la question est de savoir quelle place ces doutes prennent dans notre vie et comment nous cheminons avec eux. Alors, je ne sais pas comment vous vous faites avec vos doutes. Moi, j'ai un peu une technique et je vous la partage, je vous en ferai ce que vous voulez. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est écrire. J'aime bien écrire de temps en temps. Et entre autres, j'écris mes états d'âme, j'écris mes doutes, j'écris les questions que je me pose au Seigneur et je lui dis. Vous savez, quelquefois, notre mémoire est sélective et on est des fois un peu amnésique. On oublie certaines choses et le fait d'écrire laisse des traces. Alors, écrire, ça ne suffit pas. Après, il faut revoir ce que j'ai écrit. Mais c'est souvent intéressant d'écrire ces doutes ou ces questions, de les revoir, oh, pas 3 jours après. Hein. En général, ça vaut le coup de laisser 15 jours, 1 mois. Des fois, je relis 6 mois. Des fois, je relis 5 ans après. C'est intéressant de voir comment les doutes ou les questions que j'avais ont trouvé un chemin, ont trouvé une évolution. Je vous dis ça tout simplement ce matin parce que j'aimerais un peu opposer les doutes à la foi. Mettre d'un côté les doutes et de l'autre côté la confiance en Dieu. Confiance en celui qui est notre Créateur, entre celui qui maîtrise tout de notre situation, même quand nous avons l'impression de perdre pied. Alors là, le dimanche matin, c'est facile de dire ça. Hein. On est dans un contexte où on a chanté, dans un contexte où on s'entend bien. Je ne sais pas si vous dites la même chose le lundi matin ou le jeudi matin, quand vous êtes chez vous, hein, que Dieu maîtrise tout, que lui supervise tout. Mais je crois qu'on est d'accord que la vie de foi n'est pas faite que de certitudes et de chemins tout tracés. Notre vie de foi, elle est aussi faite de tâtonnements, de remises en question, de besoins de frères et sœurs à nos côtés pour avancer et pour comprendre là où Dieu veut nous mener. Ça, c'était un peu la première partie. La deuxième, où j'aimerais vous entraîner, c'est un peu plus loin, dans Hébreux 11. Est-ce que vous connaissez ce chapitre de Hébreux 11 ? Ça vous dit quelque chose ? Non. Le verset 1 de Hébreux 11, en général, il est assez bien connu. Vous avez déjà entendu parler des héros de la foi ?
Oui ?
Ça vous dit quelque chose ? J'aimerais juste lire le premier verset de ce Hébreux 11. Tu ne peux pas l'afficher, hein ? Je ne t'ai pas dit avant, hein, Jean-Louis. Il est doué, hein, comme ça, il faut le solliciter un peu. Hein. Et ça vous permet en même temps de voir un peu ce que je dis, pour voir si je ne raconte pas des âneries. Hein. Mais ce verset de Hébreux 11 est un verset bien connu quand on parle de foi. Et j'aimerais qu'on s'y arrête un peu à ce verset, parce que finalement, c'est une définition. La Bible ne nous donne pas forcément beaucoup de définitions, Mais à un certain moment donné, quand il y en a, il faut en profiter, hein. Il faut sauter dessus, quoi. Il faut voir un peu qu'est-ce que ces définitions nous disent et qu'est-ce qu'on peut en retirer. La foi. Vas-y, Annie, dis-le fort. C'est quoi?
C'est une... Quand tu as commencé déjà ta prédication, la foi, c'est l'espérance, c'est la ferme...
Mais dis-le dans tes mots, même si tu ne dis pas comme c'est écrit, ça ne fait rien. Ce qui est important, c'est ce que toi tu en as retenu de ce verset. C'est quoi la foi?
La foi, c'est ce que l'on espère sans le voir. Voilà, c'est comme ça que j'en ai.
Vous êtes d'accord? On peut le dire comme ça.
Et ce verset, c'est le verset d'accueil sur le site internet de la Bourge.
Alors pourquoi vous l'avez choisi ce verset? J'ai envie de dire.
À l'époque, c'est génial. Voilà, quand j'ai créé le site, c'est le verset qui m'est venu.
Donc c'est toi, Christian, qui a décidé de ce verset?
Oui. Jamais on m'a contesté ce verset, donc il est toujours en place.
Toujours en place, hein. C'est beau de parler d'un verset qui est sur le site. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, mais je trouve que ça vaut le coup, si déjà vous l'avez sur le site, de le prendre un peu en considération. C'est un verset remarquable. La foi, c'est une ferme assurance. Alors, dans ma traduction, là, je ne sais même pas laquelle c'est, si c'est semeur ou quoi, je lis juste, il y a marqué la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas.
Mais
laisse-le apparent. Hein. Ça c'est en français courant. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Deux parties à ce verset. C'est être sûr. Ou ferme assurance. La foi, maintenant c'est l'hiver, hein, c'est plus l'automne, hein, mais à l'automne il y a souvent du brouillard. La foi, c'est pas une nébuleuse illusion. La foi est quelque chose où je suis sûr. Et j'aime bien cette notion de certitude par rapport aux doutes, dont on en a parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez? On a dit qu'il y a des doutes. La foi, c'est pas doute. La foi, c'est quelque chose de solide. La foi, c'est quelque chose qui n'est pas que du cérébral. Moi, j'aime beaucoup la foi, parce que la foi, pour moi, c'est tout l'être. Enfin, c'est la certitude. Hein. La certitude, c'est tout l'être. C'est être convaincu de quelque chose, pas que dans ma pensée, mais dans mon cœur. Et le cœur, c'est le siège de mes décisions. C'est là où je prends mes décisions. Ce n'est pas que la tête, hein. C'est plus que ça. Et la foi, c'est être sûr de quelque chose qui est là, au fond de moi. Finalement, ce qui est dans mon cœur, c'est ce que je crois. C'est ce dont je suis convaincu. Alors, je pense que vous avez déjà parlé des credos. Hein. Il y a le credo de Nicée, par exemple. Il y a des credos qu'on apprend quelquefois dans certaines églises, pas trop chez les Ménonites, hein, qu'on n'a pas trop de credos. Hein. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est votre credo à vous. Ce en quoi vous croyez, en quoi vous êtes convaincu. Ça serait quand même intéressant que vous puissiez chacun écrire ce que vous croyez. Quelles sont vos convictions? Quelles sont les fermes assurances? La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, quelqu'un a dit que c'est une tranquille confiance. Bon, confiance, mais en plus tranquille, je trouve que c'est sympa ça de dire que la foi, on a tranquille confiance, ça fait du bien quoi, hein. On se sent à l'aise quoi, on ne remet pas en cause 36 trucs quoi. La foi est une merveilleuse assurance en la parole de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est proche de fidélité. Paraît-il qu'en grec, je ne sais pas de grec, hein, je l'ai pompé, hein, c'est le même mot. Ils ont un mot pour foi et fidélité. C'est bizarre, hein? Parce qu'on sait que la fidélité, comme la joie, fait partie du fruit de l'esprit, mais la foi n'en fait pas partie. Alors qu'on se dit, c'est bizarre, hein, que foi et fidélité soient aussi proches l'un de l'autre. La foi, je possède quelque chose que j'espère. Être sûr de quelque chose que je ne vois pas. Ça, c'est compliqué, ça, tout de même. C'est pas très français, ça. Hein? Nous, on est cartésiens. Nous, on veut que les choses soient claires, quoi. Comment est-ce que c'est possible? C'est être sûr de quelque chose que je ne tiens pas en main. Donc, c'est déjà pas du matérialisme, hein? Mais j'ai l'impression qu'en nous, en tout être humain, il y a une dimension spirituelle. Et je crois que c'est cette dimension spirituelle qui me permet d'être en communion avec Dieu et qui me donne cette ouverture de pouvoir croire des choses que je ne vois pas. Dire que Dieu tient ma vie entre ses mains, alors ici je peux le dire parce que tout le monde le comprend, mais si je le dis dans la rue à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, j'aurais besoin de lui expliquer ça. Et il y aura une grosse tête, hein. Mais peut-être je peux utiliser des mots tout simples. Qu'est-ce que vous utiliseriez comme mot pour dire que Dieu tient votre vie entre ses mains à quelqu'un qui ne croit pas en lui? Comment vous pourriez dire ça?
Il est invisible.
Il est invisible, ouais. Mais il se manifeste, Dieu, ou pas?
Des fois oui.
Moi j'aime souvent simplement témoigner de ce que je vis. On n'a pas besoin de prouver aux gens l'existence de Dieu. On n'arrive pas à prouver. De toute façon, même si on le voulait, on n'y arriverait pas. Par contre, ce qu'on peut, c'est simplement témoigner, dire ce que j'ai vécu. Et quand je vois Dieu à l'œuvre dans ma vie, j'ai le droit de le dire aux autres. Et c'est ça. Dire que Dieu tient ma vie entre ses mains, c'est lui partager que ce que je vis, ben lui tient à cœur. Il y a un autre verset dans 2 Corinthiens 4, verset 8, qui dit « Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités invisibles. Car les choses visibles durent un temps, alors que les invisibles durent éternellement. » Marrant, hein? Ce qui est visible un temps, on sait bien, hein, une fois qu'on est dans la tombe, c'est fini, quoi. Hein. Mais les choses invisibles durent tout le temps. Vous voyez comme dans la parole, on est invité à nous ouvrir à quelque chose. Alors, c'est comme ça que dans le chapitre de ce Hébreux 11, on a une définition, mais après, on a toute une liste de personnes qui illustrent tout simplement cette définition. Alors, c'est pas compliqué, hein. Si vous ne comprenez pas la définition, vous lisez tout le chapitre de ce que chacun a fait et vous mettez les deux en rapport et vous verrez, ben oui, c'est ce qu'ils ont vécu. Alors, toutes ces personnes-là, ce sont des gens comme vous et moi, qui ne doutaient pas de Dieu, qui avaient une vraie confiance en Dieu, et qui, dans leurs circonstances propres à eux, ont relevé le défi d'obéir. Alors, on va prendre un exemple simple, hein, pas simple parce qu'il est assez connu, Noé. Noé fait partie de cette liste. Pourquoi Noé fait partie de cette liste?
L'arche.
Ben, l'arche. Vous vous rendez compte, Noé qui construit une arche et qui dit qu'il va pleuvoir alors qu'il... C'est un homme qui a exercé sa foi, non? Je suis sûr que les gens devaient se moquer de lui. Hé, hey, t'es un peu... Ça va bien? Ça va bien la tête? Tu vois pas dehors? Il y a du soleil. Et le bateau n'était pas petit tout de même, hein? Il ne pouvait pas le mettre dans cette pièce pour dire « je le fais en cachette », hein? Il devait le faire devant tout le monde. Enfin, il devait. Il l'a fait. Ça, c'est la foi. Et donc, c'est intéressant dans ce chapitre, je ne vais pas le lire, hein, mais peut-être chez vous à la maison, lisez ce chapitre. Par la foi, Abel. Par la foi, Enoch. Par la foi, Noé. Par la foi, Abraham. Par la foi, Sarah. Par la foi, Isaac. Par la foi, Jacob. Par la foi, Joseph. Par la foi, Moïse. Par la foi, Rahab. Je lis tout de même un petit peu après. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Il continue un peu plus loin. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés, afin d'obtenir ce qui est le meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré des moqueries, le fouet, les chaînes. Certains ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres encore ont mené une vie errante et ainsi de suite. Tous ces gens-là, par la foi, ont agi. Ils sont cités. Donc on voit que vivre par la foi, il y a quelquefois un prix à payer, et ça peut être au prix de sa vie. Je ne sais pas si vous avez vu le film The Radicals. Vous ne l'avez pas vu ?
Personnellement, non.
Non ? Il faudrait que je vous en offre un exemplaire. Il raconte l'origine des anabaptistes. Nous, c'est un film chez nous, dans notre église, on montre souvent aux jeunes, aux cathés, quand on parle du baptême ou du prix à payer pour suivre le Seigneur. Et c'est un peu l'histoire de Michael Sattler, qui était donc un curé catholique qui s'est converti et qui avait foi en Dieu, mais sa foi en Dieu l'a amené à mourir sur le bûcher. Et donc on voit, la fin du film termine en gros par la mort sur le bûcher. Par la foi, cet homme s'est tourné vers le Seigneur et a changé de vie. C'est incroyable, hein ? Alors, est-ce que ces hommes... Pourquoi ces histoires de ces hommes, finalement ? Il me semble que ces histoires peuvent être des références pour nous. Quand on regarde dans le rétroviseur, et de se dire, mais qu'est-ce que ces gens ont vécu ? Et jusqu'où ils sont prêts à aller ? Et qu'est-ce que leur vie de foi les a amenés à faire ? Et peut-être ça pourrait être intéressant de mettre en parallèle où est-ce que moi je me situe dans ma vie de foi. Alors je peux déjà vous rassurer, en France, normalement on n'est pas mis à mort pour des questions de foi. C'est vrai dans certains pays de nos jours, il faut le reconnaître, mais en France, ça n'arrive pas. Donc merci Seigneur. Hein ? Merci Seigneur. Mais ça devrait peut-être presque nous encourager à être d'autant plus audacieux pour lui, en se disant que... Hein ? Est-ce que ces exemples sont là pour nous intimider, ou pour nous dire, mais de toute façon, vous n'arriverez pas à la cheville, vous êtes bien trop petit, vous ? Ou est-ce que ces exemples sont là pour qu'on les imite ? Paul lui-même a dit, imitez-moi, suivez mon exemple. C'est sûr que notre contexte de vie aujourd'hui est bien différent du leur, mais cette idée maîtresse de ténacité, de persévérance, de regard fixé sur Jésus, c'est le même objectif. Et quand vous lisez le chapitre 12, celui qui suit le chapitre 11, il y dit « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, et c'est là qu'il parle de toutes ces personnes qu'il a citées dans le chapitre précédent, il est dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous cerne si facilement et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. » Donc vous voyez que c'est Luc hein, qui a écrit l'épître d'Hébreux là, nous encourage à prendre ces gens comme référence et à s'appuyer sur eux pour dire que finalement, moi, j'ai aussi envie d'être fidèle et je veux suivre le Seigneur. Cette foi nous ouvre des portes que nous n'oserions peut-être pas prendre autrement. Cette foi en Dieu nous permet de rester calme, en paix, même quand la tempête gronde. Cette foi nous invite à croire que Dieu maîtrise tout dans nos vies, même quand moi j'ai l'impression de ne plus maîtriser. Cette foi me donne d'avancer, de m'engager, même si la raison me dirait de rester sur place. Cette foi me dit d'écouter ce que Dieu me dit plutôt que de me fier aux circonstances. Cette foi m'invite à faire confiance à mes frères et sœurs plutôt qu'à moi-même à certains moments. Voilà à quoi servent tous ces exemples de foi de ces personnages. Maintenant, j'aimerais encore dans un troisième temps vous emmener un peu dans des modèles de foi qu'on trouve dans les évangiles, où on voit la foi qui est vécue sous différents angles, dans différentes situations. Et la première situation, c'est la foi de l'aidant, j'appelle ça, la foi de celui qui accompagne, la foi de quelqu'un qui est à côté de moi. Alors vous savez que hier, il y avait une journée de sensibilisation à l'accompagnement, et donc on a aussi parlé un peu de cette dimension de comment accompagner la personne et comment avoir foi pour quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit, le meilleur exemple, c'est de prendre l'exemple du centurion romain, qui a été un exemple de foi, où même Jésus a été surpris de voir comment cet homme avait une foi si profonde en Dieu. Je veux lire quelques versets dans Matthieu 8. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivait. Et voici qu'un lépreux s'approcha. Je lis un peu plus loin, au verset 5, parce qu'il y a deux histoires. Jésus entra à Capernaüm, et quand l'officier romain l'aborda, il le supplia : Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Sûrement, il a dit ça parce que lui, il était romain, hein, et que Jésus était juif. Mais tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration. Il s'adressa à ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Puis Jésus dit à l'officier, rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. C'est impressionnant de voir la foi de cet homme. Une foi sans faille. Il suffisait que Jésus dise un mot, et déjà lui, il était convaincu que quelque chose allait se passer. Il avait foi en un Dieu tout-puissant. Quand tu pries, à quel Dieu tu t'adresses? Quel type de Dieu as-tu dans ta relation avec lui? Est-ce que Dieu est quelqu'un de très personnel pour toi, de très proche, de quelqu'un d'intime, avec qui tu partages les choses les plus profondes et en qui tu as vraiment confiance? Ce centurion, il est impressionnant parce qu'on sent qu'il est vraiment convaincu que s'il s'adresse à Jésus pour son serviteur, il pourra faire quelque chose. Il en est convaincu, plus que convaincu. On n'entend rien du tout de l'histoire du serviteur, mais c'est la foi de cet homme, de ce centurion, qui fait que finalement le serviteur est guéri. Vous vous rendez compte le pouvoir finalement que l'aidant a vis-à-vis de l'aidé? Une foi simple dans ce Dieu créateur, mais une foi qui croit que Dieu peut tout et que Dieu fait ce que je lui demande. Il avait cette foi en Dieu parce que lui-même l'avait expérimenté. Donc c'est une foi simple où nous pouvons croire pour des personnes qui n'arrivent plus à croire. La deuxième forme de foi, c'est celle de Pierre. Vous savez que Pierre était un disciple de Jésus, pas n'importe lequel, et c'était quelqu'un de remarquable. J'aimerais lire là les 8 premiers versets de Luc 5. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézaret et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs y étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde. Puis, toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. »« Maître, maître !» lui répondit Simon, « Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. » Mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent. Ils prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent à d'autres signe de venir pour les aider. Pierre est un très bon pêcheur. Pierre est un professionnel de la pêche. Pierre sait que si durant la nuit on ne pêche pas, c'est pas au petit matin qu'on va pêcher quelque chose. Toi, Jésus, si tu parles de charpente, on peut t'écouter. Parce que ton père était charpentier. Mais en pêche, Jésus, t'y connais vraiment pas grand-chose. Alors, tu veux m'apprendre une morale? Pierre, à ce moment-là, ne savait pas grand-chose de Jésus encore. Mais, il est remarquable, ce Pierre. Toute sa logique humaine, toute son expérience, il la met de côté. Toute sa logique, et qui était sûrement basée sur beaucoup de sagesse, il la met de côté. Et pourquoi est-ce qu'il jette le filet? Une traduction dit, peut-être pas celle-là, mais qui dit « sur ta parole ». Et j'aime cette expression qui est « sur ta parole, je jette le filet ». Parce que toi, Jésus, tu me le demandes, alors je le fais. Incroyable, non? Vous vous rendez compte? Cela demande tout de même du courage. Cela demande de ne pas avoir peur du ridicule. Et si ça ne marche pas, il court un risque énorme. Tout de même, lui qui a de l'expérience, faire des âneries comme ça. Alors nous, c'est facile. Nous, on sait que finalement, ça a marché. Nous, on a du recul là-dedans. Mais que penser de cette foi de cet homme? Quelle foi Pierre devait avoir en Jésus? Parce qu'il avait compris que Jésus lui demandait ça, il l'a fait. Et ça marche. Quand Jésus te demande quelque chose, ça marche, ça fonctionne. Est-ce que les héros de la foi qu'on a cités précédemment ne pourraient pas dire la même chose quand ils ont eu un appel et qu'ils se sont mis en route? Ils ont répondu à ce que Jésus ou à Dieu leur a demandé. Et ça marche. Quand Dieu vous demande quelque chose, est-ce que vous le faites? L'important pour moi, c'est d'être fidèle dans les petits pas, dans les petites choses qu'on sait. qu'on a à faire. Alors peut-être ça paraît des fois insignifiant, mais ça vaut la peine de le faire. Et je citerai là peut-être juste un exemple où je posais la question, JPC, je ne sais pas, vous connaissez peut-être cette association qui travaille pour les jeunes, avait une soirée de fête, et au début je n'avais pas trop envie d'y aller. Je me suis dit, mais vous savez comment c'est, hein, quand on reçoit des fois des invitations, on se dit, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou est-ce que ça ne vaut pas le coup? Alors on pèse le pour et le contre du... Finalement, samedi soir, on est bien chez soi, à la maison aussi. Hein. Et au fond de moi, je sentais qu'il y avait une petite voix qui me disait, et si tu y allais? Et après, souvent quand on est marié, on a le privilège d'être ancré à deux, alors on décide pas tout seul. Et je sentais que ma femme, elle avait envie d'y aller, quoi. Et moi, j'avais pas trop envie, mais... Après, je lui ai même dit, mais écoute, si on y va, c'est parce que toi, tu veux. Elle dit, non, c'est pas parce que moi, je veux. C'est parce que, bah, on a été invité. Je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu veux que j'y aille? Et vous êtes donc directement en lien avec Elisabeth, hein, Egué, qui fait Trek. En France, on réfléchit aussi à un projet de formation longue, ce qui était à la dernière réunion des délégués, on en a entendu parler. Et l'idée, c'est avec JPC de collaborer un petit peu, quoi. Et je me suis dit, mais peut-être Seigneur, si tu veux que j'aille là-bas, tu sais pourquoi tu... Et cette petite voix au fond dit, Joël, vas-y, quoi. Et j'ai osé le dire à l'une ou l'autre personne, j'ai dit, j'y vais, je ne sais pas pourquoi j'y vais, mais je sais que je dois y aller. Ça vous arrive de faire des choses comme ça? Et j'y suis allé, et je ne vais pas vous raconter en détail ce que j'ai vécu, mais en rentrant le soir, je crois qu'il était 1h du mat ou 1h30, je savais que c'était ma place. Au travers de l'une ou l'autre discussion, au travers encore de la préparation qu'on a pu faire pour la journée de hier sur l'accompagnement, je sentais que Dieu avait préparé le chemin. Et je me dis, quelquefois c'est dommage si on ne donne pas suite aux petites voix qu'on entend, parce qu'on peut les faire taire, et Dieu il nous en voudra pas. Si t'as pas voulu, c'est pas grave. Mais on réalise pas à côté de quoi on passe quand on n'ose pas écouter ce que Dieu nous dit et l'idée d'y aller. Et je pense que pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose de différent. Hein. Mais pour moi, ça a été un exemple relativement récent, ça remonte aussi il y a 15 jours, 3 semaines, de se dire, j'ose faire des petits pas, j'ose être fidèle dans quelque chose que je crois comme vrai, et j'y vais. Alors je risquais pas ma vie, hein, si c'était pas... Mais quelquefois, il faut se bousculer un peu, et la foi nous invite à ne pas nous installer dans un confort, mais à sortir un peu de nous et à oser y aller. Et j'aimerais encore citer un dernier exemple, un troisième, d'exemple de foi, où il s'agit, et cette histoire vous la connaissez très bien aussi, du paralytique qui a été amené à Jésus. Et je trouve très beau, c'est dans Marc 2, hein, on ne va peut-être pas lire le texte, mais là j'appellerais ça la foi partagée. La foi de quatre gars qui se mettent ensemble. Quatre gars. La force de quatre gars qui sont ensemble, qu'est-ce que ça donne? Dans cette histoire, on n'entend rien du tout du paralytique. On a l'impression que ce gars-là, il s'est laissé faire. Mais ce qu'on est convaincu et ce qu'on réalise, c'est que les quatre qui ont emmené ce paralytique... Il savait ce qu'il faisait. Parce qu'on a beau être à l'époque, faire un trou dans un toit pour que Jésus voie cette personne, il faut se dire que ça vaut la peine. Je me dis aussi, quelle peut être la portée quand avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, on se met ensemble et on prie et on entoure quelqu'un. Et à ce niveau-là, j'ai aussi un petit exemple d'une personne dans notre église qui n'allait pas bien et qui avait à cœur qu'on prie pour elle. Et on a formé un groupe à quelques-uns à prier pour elle à des intervalles irréguliers. Hein, il n'y avait rien de coordonné. Mais quand je le revois maintenant avec du recul, et c'est pour ça quelquefois il faut du recul, après 1 an et demi, cette personne a vécu une transformation sérieuse. Pas totale, elle est encore un peu limitée, mais elle était en arrêt de travail, elle avait des acouphènes, donc elle ne pouvait plus travailler correctement, concentrée. ben maintenant elle peut de nouveau assurer un travail. Et on se dit, ça vaut la peine de s'unir avec d'autres et de prier pour avancer avec le Seigneur. Le dernier point encore que j'aimerais voir avec vous, presque un peu en conclusion, c'est comment est-ce que ma foi peut grandir ? Comment est-ce qu'elle peut grandir ? Mais déjà, est-ce qu'elle est appelée à grandir ? On pourrait dire, après tout, hein ? Elle est ce qu'elle est, quoi. Mais quand on voit que les disciples ont posé cette question à Jésus, augmente notre foi. Donc je pense que nous, on a le droit aussi de demander ça au Seigneur. Et quand on voit que Paul, dans 2 Thessaloniciens, se réjouit parce qu'il dit aux Thessaloniciens, mais je me réjouis de ce que votre foi augmente. Donc il a vu qu'il y avait une progression. Donc il me semble que notre foi est appelée à grandir. Alors je ne sais pas si vous savez la suite du verset quand les disciples demandent à Jésus d'augmenter leur foi. Jésus leur répond dans Luc 17, « Si vraiment vous aviez la foi comme un petit grain de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, il vous obéira. » C'est marrant parce que eux posent une question et j'ai l'impression qu'avec un si, hein, marrant que Jésus m'ait des si, hein, si vous aviez la foi, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout une réponse à la question, quoi. Moi j'aurais bien aimé que Jésus il nous donne un peu, comme il a donné une définition là, enfin, quelque chose de plus clair et dire comment ça se passe. Hein. Les disciples ont une question légitime et j'ai l'impression que Jésus, pour moi, il répond un peu à côté de la plaque, quoi. Mais c'est peut-être parce que tout juste, il n'y a pas de recette de cuisine pour que notre foi augmente. Mais simplement une invitation à ce que la foi grandisse. Je suis agriculteur. Il y a un mois, j'ai planté des graines de blé. Et peut-être plus cette année encore que les autres années, je suis allé voir comment ça pousse. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'aller regarder. Hein. D'abord, il y a un petit germe qui vient, comme ça, par derrière, on ne sait pas trop par où. Après, ça commence, c'est tout blanc, hein. Ensuite ça commence à pousser. Et là, j'étais allé voir, là, il y a 10 jours, un truc tout fin, comme ça, de 3 cm, tout fin. Et quand j'ai pensé à la foi, je me suis dit, mais j'ai l'impression que des fois, ma foi, c'est comme ça, quoi. C'est quelque chose de tout fin. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que ça grandisse ? Surtout une chose, ne pas tirer dessus, quoi. Ça, je ne dois pas faire. Parce que quand c'est si petit que ça et que je veux tirer dessus, hein? Alors là, peut-être on va dire, il faut lui laisser passer l'hiver, quoi, hein, maintenant. Hein? Il ne faut surtout rien faire. Mais si on veut qu'une plante pousse, il faut l'entourer, la soigner, quoi. Il faut en prendre soin. Il me semble que Robert a dit ça, hein, il y a 3 semaines. Prenez soin du troupeau. Prenez soin de vous-même, il a dit. Pour que la foi grandisse, il faut prendre soin. La foi, je crois que c'est un peu comme un muscle. Vous savez que les muscles qui ne travaillent pas, ils s'ankylosent. Plus ils travaillent,
mieux c'est.
Mais la foi, c'est comme un muscle. C'est comme une jeune plante, c'est comme un muscle. Ça demande de l'exercice. Et peut-être la dernière illustration pour que notre foi grandisse, j'illustrerai encore des brebis avec le berger. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de moutons encore dans la région. Ouais. Pas mal. Je suis toujours impressionné comme les brebis arrivent à entendre la voix du berger. Il n'y a pas si longtemps que ça aussi, j'avais fait de l'expertise là chez un éleveur de moutons. Et il m'a dit, mais avec la voiture, il ne fallait pas qu'on approche trop près, quoi. Parce que si on approchait trop près du troupeau qui était dans le hangar, il risquait d'entendre la voiture et la voix du berger, et tout ça allait commencer à se manifester. Vous connaissez le texte, hein, dans Jean. Mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent. Encore une petite histoire pour terminer. Il est arrivé qu'un troupeau a été volé dans une région a été emmené. Et on ne savait pas où il était parti, ce troupeau. On s'est dit, mais c'est des voleurs qui sont passés. Je ne sais pas combien ils étaient, hein, mais... Et on a entendu que pas trop loin, il y avait un port. Et l'idée, c'est qu'il y avait toute une série de moutons qui devaient partir embarqués pour être emmenés dans un autre continent, par la mer. Alors le berger s'est dit, mais moi, je ne vais pas retrouver mes moutons. Et l'idée, c'était d'aller au port. Il a appelé, il y avait plein de moutons. Il a appelé ses moutons. Et paraît-il qu'un à un, ils se sont détachés du gros lot parce qu'ils ont reconnu la voix du berger et ils l'ont suivi. C'est un beau moyen hein, pour faire grandir la foi. Entendre la voix de celui qui nous parle. Je termine par la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui est un repère sûr. Merci pour ce qu'elle nous dit. Merci pour la foi qui est quelque chose d'important. Merci parce que nous avons la foi, nous avons tous la foi en toi. Nous croyons que tu existes et nous t'avons déjà vu à l'œuvre dans notre vie. Merci pour ces exemples de foi dans l'histoire, dans notre histoire, dans l'histoire de ta parole. Des exemples de foi aujourd'hui de personnes que nous connaissons qui nous parlent. Merci parce que tu veux que cette foi nous la mettions à l'œuvre, que nous la vivions, que nous en témoignions, que nous rayonnons de cette foi. Alors que ces petites graines de foi en nous, Seigneur, puissent germer et grandir, puissent aller, puissent porter du fruit. Chacun là où on est, Seigneur. Tu vois quels sont nos défis, tu vois ce qui nous attend cette semaine. Aide-nous à reconnaître ta voix. Et à la suivre, Seigneur. Amen.